Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Salvador Dali est célèbre autant pour ses moustaches que pour son excentricité. La preuve, nous sommes le 25 janvier 1989 à Figueras, dans la maison du peintre. Dali, décédé 2 jours plus tôt, est sur le point d'être enterré. Une mise en scène grandiose est déjà en place. Après un embaumement qui a duré plusieurs heures, l'artiste apparaît au public allongé dans son cercueil, ses moustaches toujours à 10h10 parfaitement gominées. Dali est vêtu d'une tunique de soie sur laquelle sont brodés au fil doré ses armoiries de marquis de Poubol, un titre qui lui a été conféré quelques années avant sa mort par le roi d'Espagne, Don Juan Carlos I. L'artiste doit être enterré dans son musée-théâtre sous la coupole d'une sorte de chapelle Sixtine surréaliste qu'il a lui-même imaginée. Plus de 30 000 personnes défilent pour rendre à Dali le dernier hommage qu'il mérite. Cette cérémonie grandiose est l'ultime caprice du génial et égocentrique Salvador Dali. Mais revenons aux origines. En 1901, les parents de Dali, notables à Figueras, dans le nord de l'Espagne, ont un premier enfant qu'ils prénomment Salvador. Mais le bébé, atteint d'une méningite, meurt avant ses 2 ans. Le 11 mai 1904, 9 mois après cette perte terrible, un autre enfant naît. Il l'appelle lui aussi Salvador. Le futur artiste grandit dans la chambre de son frère et porte ses habits. Il ressemble beaucoup au petit garçon disparu et c'est un traumatisme qui le marque à vie. Toutes les excentricités que je commets sont la marque de ma vie. Je veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant, écrira-t-il plus tard. Attirer l'attention, telle l'obsession du jeune Dali. Petit, il fait ses besoins dans des endroits incongrus de la maison, comme les placards ou les chaussures. Ses parents, très protecteurs, laissent leur fils développer son caractère pour le moins original. À 18 ans, Salvador Dali intègre l'école des beaux-arts de San Fernando à Madrid et se fait remarquer, certes pour son immense talent, mais aussi pour ses tenues excentriques. Il tient d'une canne à pommeau dorée, porte une veste en velours, les cheveux longs, des pattes lui arrivent au milieu des joues. À la fin des années 20, Salvador Dali se rend à Paris et fait la connaissance d'André Breton, Paul Éluard et René Magritte. Des artistes surréalistes dont il rejoint rapidement le groupe, animé par le même objectif qu'eux, libérer la création de toute contrainte en utilisant l'absurde et l'irrationnel. Pendant les vacances, le poète surréaliste Paul Éluard et sa femme Elena, surnommée Gala, rendent visite à Salvador Dali en Espagne. Oh, c'est le coup de foudre entre Dali et Gala, de 7 ans son aîné. Gala devient sa principale source d'inspiration, sa muse, à qui il dédie nombre de ses œuvres, et puis elle devient sa femme aussi. Dans les années qui suivent, le peintre expose, la notoriété de Dali explose. Il peint son célèbre tableau, La persistance de la mémoire, aussi appelé les montres molles. Il s'éloigne des surréalistes farouchement opposés au nazisme en proclamant sa fascination pour le dos tendre et dodu d'Hitler, toujours si bien sanglé dans son uniforme. Il qualifie aussi le Führer de phénomène surréaliste absolument fantastique. C'en est trop pour l'écrivain André Breton, chef de file des surréalistes, qui exclut Dali du mouvement. Dali sait peaufiner son personnage d'artiste extravagant et volontairement provocateur. Il organise un véritable culte autour de sa personnalité, se faisant appeler maestro par son entourage ou se livrant à diverses excentricités. « J'ai beau être très connu, raconte-t-il à Noël l'année dernière, on m'a offert une petite clochette. » Je me promenais dans les rues de New York et chaque fois que j'avais l'impression que les gens ne faisaient pas assez attention au divin Dali, j'agitais la clochette. Il m'était insupportable de penser qu'on pût ne pas me reconnaître. Mais son accessoire indispensable n'est pas une clochette, c'est évidemment sa moustache en croc. Le peintre espagnol en prend grand soin, l'enduisant de miel ou de jus de datte pour la faire tenir. Il raconte même qu'il lui arrive d'utiliser du sperme, mais difficile avec Salvador Dali de discerner le vrai du faux. Ce comportement farfelu lui ouvre en grand les portes de la gloire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dali s'installe aux États-Unis où, comme preuve de reconnaissance, s'il en fallait une, il fait la une du Time Magazine. Salvador Dali, avec Gala qui négocie ses contrats, multiplie les commandes commerciales. Il crée une boîte de nuit pour la chaîne d'hôtels Sheraton, dessine un costume pour Dior, lance son propre parfum ou encore tourne dans une publicité restée célèbre que je vous ai mentionnée tout à l'heure, les chocolats Lanvin.
Je suis fou du chocolat Lanvin.
Eh oui, ses activités lui rapportent gros, Mathieu. Ça tombe bien, Dali adore l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'André Breton le surnomme avec un brin de mépris « Avida Dollar », l'anagramme de Salvador Dali. À partir de 1949, le couple s'installe dans sa maison de Portlligat, en Catalogne. À l'entrée, le visiteur est accueilli par un ours empaillé. Puis les pièces se succèdent parsemées d'objets hétéroclites comme un canapé en forme de bouche ou une lampe réveil en forme d'escargot. Dans le jardin, la piscine de forme phallique vaut aussi le coup d'œil. C'est vrai que le sexe et l'amour tiennent une grande place dans la vie de Salvador Dali. À Portlligat, comme bien que Gala soit à ses côtés, Dali accueille au milieu des années 60 une nouvelle venue dans la villa. Une certaine Amanda Lear, une étudiante aux Beaux-Arts, une jeune mannequin qui aime faire la fête. C'est d'ailleurs lors d'une fête chez Castel que ces deux-là se sont rencontrés. Il a 60 ans, elle en a 42 moins. Reste à faire accepter la jeune fille par Gala, qui a, elle aussi, tendance à aller s'amuser ailleurs, parfois. Avec des gigolos, raconte l'histoire. Quoi qu'il en soit, tous acceptent ce ménage à 3, 4 ou plus. Il faut dire que les Dali forment depuis longtemps un couple libre. Lorsqu'il vivait à New York, déjà Dali organisait des soirées libertines avec l'aide d'un certain Jean-Claude Dubarry, qu'il appelait son officier du cul. Ses invités s'adonnaient au clédalisme, une pratique sexuelle inventée par l'artiste.
Racontez-moi
un
ça.
Condensé des divers fantasmes de Dali, sadisme, voyeurisme, masturbation et bien d'autres. Mais par respect pour vos chastes oreilles et celles de nos auditeurs surtout, je n'entrerai pas ici dans les détails. Pour Salvador Dali, la vie est plutôt belle jusqu'à ce jour funeste du 10 juin 1982 où Gala meurt à l'âge de 89 ans. 6 ans plus tard, le 23 janvier 1989, Salvador Dali s'éteint des suites de la maladie de Parkinson. L'artiste, à la vie surréaliste, est enterré dans le musée contenant nombre de ses œuvres qu'il avait lui-même créées. Récemment, en 2017, son corps est exhumé pour un test ADN. Le légiste n'en revient pas.
Comment ?
28 ans après la mort de Salvador Dali, les pointes de sa moustache se tenaient toujours aussi droites, toujours à 10h10, évidemment.
Europe 1, historiquement vôtre.